Je passe la parole à Madame Christiane Olivier, psychanalyste.
Bonsoir à tout le monde. Je vais vous parler d'un sujet qui est difficile à traiter parce qu'il est dans le commun de nos jours, parce qu'il est dans nos journaux, parce que les forces de police sont en train de se dresser pour dire on ne veut plus être attaqué par des gens plus jeunes que nous et plus méchants, parce qu'il y a un problème de société derrière, c'est une évidence. Nos enfants ne sont pas devenus méchants comme ça tout d'un coup. Quand j'étais petite, les enfants n'étaient pas méchants comme ils le sont devenus. Alors ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 50 ans pour que nos enfants croient qu'ils ont des droits d'adultes, c'est-à-dire le droit de tuer l'autre, le droit de tuer pour avoir, pour prendre, pour se venger? Il faut dire que la violence est un sentiment qui est à définir au départ. Vous le voyez comme un sentiment négatif, tueur de l'autre. Mais c'est un sentiment, une pulsion, dit un psychanalyste plutôt, plus volontiers. C'est une pulsion présente dès le départ, car c'est une pulsion de défense contre la mort. Nous savons que les bébés sont extrêmement résistants à la mort. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont une pulsion de vie énorme et que chaque fois qu'ils sont menacés, ils se défendent mieux que nous. Parce qu'ils ont une force énorme pour dire « je veux vivre ». Parce qu'ils sont au début peut-être et parce que nous, nous sommes au milieu ou à la fin. Mais enfin, les bébés ont des pulsions d'une puissance incroyable. Quand vous laissez un bébé dans son berceau manquer de quelque chose, vous le retrouvez transpirant, rouge, il est arrivé alors qu'il ne sait pas prendre une position ni rien. Il est arrivé à se mettre en travers, il est tout rouge, il transpire, on dirait qu'il n'entend plus, qu'il ne sait plus où il est. Vous l'attrapez, vous le prenez dans les bras, il vous faut 2 minutes à peu près pour que cet enfant se dise « on s'occupe de moi ». Qui ? J'en sais rien, mais on s'occupe de moi. Il faut voir ce que le bébé a affronté quand il vient au monde. C'est, je pense, l'épreuve la plus terrible que nous ayons de quitter un milieu homogène où nous pouvions nous appuyer, où nous pouvions boire, où nous pouvions faire des bulles, où nous pouvions lâcher nos besoins les plus naturels. On pouvait tout faire. Jamais on ne se heurtait à un refus, jamais on ne se heurtait à un manque. On était donc dans quelque chose qui était quasiment parfait, mais on ne le savait pas. Là est le problème. Et quand on arrive au jour, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qu'on a perdues. Ouvrant la bouche, le bébé pour avaler du liquide amniotique, vraisemblablement, et retrouver son équilibre, avale de l'air. Et quand il veut recracher l'air, ça le fait crier. Il n'est pas habitué, évidemment, que tout ça est extrêmement secouant. Et que nous voyons les bébés, quand on les attrape et qu'ils sortent du ventre, ils sont extrêmement à la fois glissants, mais raides. Ils sont tout raidis, car ils n'ont plus rien où reposer. Ils ne sont plus dans le liquide, donc ils ne sont plus portés. On les porte. Et ils sentent les mains des adultes qui les attrapent comme quelque chose de dur, parce que l'utérus de la mère était quelque chose d'extrêmement souple, qui allait dans un sens, se déformait, revenait. Vous le savez bien que quand une femme est enceinte, elle a une bosse ici, un trou là, puis ça change, etc. C'est le bébé qui prend sa liberté, mais quand il est né, sa liberté s'en va. Et c'est pour ça qu'il devient extrêmement violent, et que s'il manque de quelque chose et qu'il ressent le vide, comme il le ressent très vite, au bout de 2 jours, il se met à crier d'une façon anormale et très très forte. Alors, il y a des gens qui disent « laissez-le crier, c'est une habitude humaine, il va se faire les poumons ». Moi, je ne dis pas du tout, ne le laissez pas face au vide, il ne sait pas ce que c'est, ça l'affole. Donnez-lui 3 gouttes d'eau, donnez-lui une tétine, donnez-lui ce que vous voulez, mais ne le laissez pas affronter ce vide, c'est déjà énorme. Vous le mettez dans un berceau, mettez-le dans un berceau qui, autour, est une sorte de boudin qui est attaché au berceau pour qu'il ne puisse pas l'attraper et s'étouffer avec, mais mettez-le contre quelque chose qui est doux pour sa tête quand il se met dans tous les sens, qu'il trouve un endroit où s'appuyer, car vous retrouvez régulièrement votre bébé endormi en coin, la tête contre le coin du berceau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche les limites de son habitacle. Sans arrêt, pendant les premiers mois, il cherche à retrouver tout ce qu'il a perdu. Alors, les parents, que peuvent-ils faire pour éviter que l'enfant ne devienne vraiment violent ? Ils peuvent accéder aux besoins du bébé qu'ils connaissent. Ils savent que le vide est externe et est interne. Donc c'est un double vide. Donc ils peuvent donner de quoi manger au bébé, ils peuvent lui parler, le remplir par les oreilles, ils peuvent le balader dans l'air en le berçant ou en le prenant dans les bras. Ça va lui rappeler les mouvements qu'il avait quand la mère bougeait et qu'il était dans son ventre. Tout ce qu'on peut faire qui est moteur en douceur et en tenant l'enfant lui rappelle la douceur qu'il avait à être dans notre ventre. C'est une chose évidente. Et les bébés qu'on abandonne seuls pendant 2 heures ou 3 heures, on les met en difficulté. Et ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et ils crient d'une violence absolument énorme. Le mot mourir est faux, car à cet âge-là, on n'a pas de phonème, on n'a pas de symbole dans la tête. On ressent que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer parce que ça n'a jamais été comme ça. Et alors l'enfant dépense toutes ses forces pour essayer de sortir de ce truc qui ne peut plus durer. Mais il est en état de violence. Il faut voir que la violence naît dès le départ. Et les parents ne veulent pas l'entendre. Les parents ne veulent pas l'entendre. Je fais souvent des conférences sur ce sujet. Les parents sont très mécontents parce que le bébé est pour eux l'objet d'un double désir. Il doit naître comme leur désir, d'un désir d'amour, de communauté. Et il doit être là, tout heureux, tout souriant, donnant raison à ses deux parents. Et quand il se met en état de violence parce qu'il est vide, il semble qu'il leur donne tort. Il ne leur donne pas tort. Il leur apprend qu'est-ce que c'est de naître et qu'ils ont déjà oublié, mais qu'ils ont intégré à leur vie. Selon qu'ils ont peur du vide ou pas, les gens n'ont jamais oublié leur violence, tout simplement. Il y a des gens qui peuvent voler dans le vide, sauter dans le vide, et il y en a qui ne le feront jamais, car ils se souviennent très bien du sentiment de pesanteur qu'on a tout à coup en soi quand on est projeté hors du ventre de la mère et pris dans des mains humaines. Ça ne fait pas du tout la même chose. Cette violence, donc, la première année, est à traiter d'une façon particulière, parce que l'enfant, n'ayant pas de mots et pas de symboles, ne sait pas ce qui lui manque. Mais nous le savons. Nous savons qu'au milieu, il digère extrêmement vite. Nous savons que tous les 2 heures, il se sent vide et que c'est insupportable. Nous ne pouvons pas lui donner à manger toutes les 2 heures. On nous dit que c'est trop serré. Maintenant, on a élargi un peu le système en disant « Vous pouvez donner à vos bébés à la demande. » Mais à la demande ne veut pas dire quelquefois la demande du bébé qui se renouvelle beaucoup. Alors, il est certain qu'on peut lui donner une tétine à ce moment-là, on peut lui donner 3 gouttes d'eau, on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer de le rapprocher de sa suivante tétée. On peut le prendre dans les bras, on peut lui chanter des chansons, il entend très bien. On peut le changer de pièce, il sent très bien l'odeur des pièces. On peut le mener dans une pièce plus sombre, il voit vaguement si c'est sombre ou si c'est clair. Tout ça l'occupe et pendant qu'il est occupé par les autres sens, il oublie cette fameuse bouche qui est vide. Alors c'est très intéressant avec un bébé du premier âge que les parents passent énormément de temps à lui faire oublier qu'il a faim et qu'il a un trou dans l'œsophage. Il faut que les parents, par des moyens externes, lui passent finalement quelque chose de l'ordre de la culture. Vous savez que nous buvons de la musique, nous nous rassasions de couleurs. Nous évanouissons d'une odeur, ce qui veut dire que nous mettons toutes les sensations des sens à l'intérieur de nous-mêmes et que nous nous en nourrissons. Le bébé peut faire pareil, mais il faut l'aider, il faut l'initier à ces choses, car au début, il ne réagira pas à la musique, mais au bout de 3 jours, il réagit à la petite musique qui est au-dessus du lit et qui tourne et qui fait toujours le même bruit. Et quelquefois, le rythme est un rythme qui ressemble au rythme du cœur de la mère, dont il se souvient extrêmement bien. Piaget a fait des expériences pour des bébés qui pleuraient et il avait enregistré le cœur de la mère avant, il a fait passer le bruit du cœur de la mère, le nourrisson s'est calmé. Il a prouvé qu'il savait se calmer sans nourriture en entendant ce qu'il connaissait déjà. Ce qu'on connaît déjà est toujours rassurant et ce qu'on ne connaît pas est toujours angoissant. Et quand on est angoissé, on devient violent. C'est ça qu'il faut connaître du cycle de l'homme. C'est qu'au départ, il est surpris par sa naissance, il tombe dans un monde d'inconnu, dans un monde de manque, et là, il devient agressif. Et les parents doivent aller plus vite que l'enfant, car avec leur intelligence et leur connaissance de l'inconscient, ils doivent très bien savoir ce qui manque à l'enfant. Un parent doit savoir que s'il a donné à son enfant à téter il y a environ un quart d'heure, et que le bébé recommence à crier, il n'a pas faim. il a peut-être un diverticule, il a peut-être une malformation de l'œsophage, il a peut-être une régurgitation à faire, il a peut-être quelque chose de l'ordre de la nourriture à rendre, mais il n'a sûrement pas faim. Bon, si le bébé reste tranquille pendant trois quarts d'heure, il a commencé la digestion, tout va bien, s'il se met à pleurer, c'est qu'il a autre chose. Peut-être qu'il a une selle, ça le pique, il n'est pas habitué à ce que ça le pique. Il faut donc ouvrir les couches, le changer. Il y a des tas de choses de l'extérieur que nous pouvons faire et qui disent à notre enfant qu'il n'est pas avec quelque chose, il est avec quelqu'un. Il fait la différence parce que nous faisons du bruit, nous faisons beaucoup de bruit à côté de la parole de la mère qui était transmise par toutes les enveloppes dans lesquelles il était. Notre voix est très bruyante, la voix du père, la voix des enfants qui sont là, tout ça est très bruyant. Et l'enfant apprend qu'il n'est plus dans quelque chose où tout est tamisé, mais dans quelque chose de très vivant, très bruyant. Et quelquefois, il n'aime pas du tout le silence de sa chambre. Et quelquefois, il faut laisser la porte ouverte avec la cuisine. Et quelquefois, il faut prendre le berceau dans la cuisine et continuer à faire la cuisine. Et il va s'endormir parce qu'il est ravi, parce qu'il entend du bruit, il entend des voix, et il se met à dormir. Ça dépend des bébés. C'est aux parents de savoir si ce bébé-là va pouvoir s'adapter au silence d'une chambre de bébé bien préparée. Ce qui est la pire des choses, c'est l'isolement total, dans un ordre total, avec rien à regarder, rien à entendre en général. Donc, il y a beaucoup de bébés qui ne s'y font pas du tout. Les parents, cette année-là, doivent être toute écoute, tout amour et toute gentillesse pour le bébé. Il n'est pas question de coller une fessée, ni une claque, ni rien de cet ordre à un bébé jusqu'à ce qu'il ait environ 10 ou 11 mois. On ne doit pas toucher un bébé. J'ai un dilemme en ce moment avec Alice Miller qui veut faire passer une loi sur l'interdiction de la fessée. Moi, je ne suis pas OK. Je trouve que la fessée, si les parents veulent la donner, ils peuvent la donner. Mais de toute façon, la fessée n'est plus la fessée, car elle n'est jamais donnée avec une main nue sur une fesse nue. Elle est donnée sur une épaisseur de couche qui fait beaucoup de bruit, un point, c'est tout. L'enfant remarque que c'est un truc qu'on ne fait jamais, alors peut-être qu'il s'en affole, je ne sais pas. En tout cas, il n'a sûrement pas mal. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour une loi pour les fessées. Je dis que les seuls qui ont besoin de loi pour les fessées sont des parents extrêmement violents, en particulier des alcooliques, qui ne reconnaissent aucune loi. Donc, quand ils ont bu, ils ont perdu la loi, ils ont dépassé leur surmoi, rien n'est interdit, tout ce qui les gêne, ils tapent, ils cognent, donc les lois sont impuissantes sur eux. Alors, pourquoi ferait-on une loi pour les autres parents, que moi j'estime normaux? Il y en a qui ont besoin de donner une fessée, il y en a qui donnent une claque, il y en a qui attrapent par le bras, il y en a d'autres qui disent « sors-moi de là » et puis tirent l'enfant parce qu'il est assis par terre, il ne veut pas se lever. Moi, j'estime que tout acte que fait un parent contre l'opposition formelle de l'enfant à partir de l'âge de 1 an, quand il marche et quand il sait aller dans la pièce, est tout à fait normal. Et moi, je ne ferai jamais de loi pour ces choses-là. Mais je voudrais vous expliquer le maniement simplement de la violence. Si vous avez été sévère la première année, vous vous êtes trompé, car votre enfant ne méritait aucune sévérité. Il demandait quelque chose qui lui avait manqué et qui lui manquait cruellement. Il fallait aller au-devant de lui, il fallait le lui donner. C'est tout ce qui faisait que votre enfant allait se calmer. Quelquefois, on y passe beaucoup de temps. Quelquefois, il y a des enfants qui naissent tellement nerveux que les premiers jours, on est obligé d'appeler un pédiatre et le pédiatre donne 3-4 gouttes calmantes quand il crie trop. Parce que crier trop, c'est prendre l'habitude d'aller au bout de ses forces, au bout de sa voix, d'être très, très, très en colère. Et votre enfant ne doit pas apprendre ça. Car s'il l'apprend, ça tombera dans le refoulement, c'est-à-dire la partie de l'inconscient qui ne revient jamais et il gardera le réflexe de la rage extrême sans savoir où il l'a pris. Donc, dans les années où on forme cet inconscient secret, il faut faire attention à ce que nous faisons. C'est extrêmement important, bien plus important que quand nous nous mettons en colère à 5 ans sur un enfant qui comprend, qui entend et qui se souviendra. Hein. Bon. Et cette première année évolue bien si les parents ont le sens qu'après les 3 premiers mois, ils voient que l'enfant commence à remuer les mains, à pouvoir attraper des choses, donc ils lui donnent une chose, l'enfant essaye de l'attraper, il la loupe, il reprend, il le tient, puis il ne peut plus le lâcher, il ne sait pas lâcher, ouvrir, lâcher, il n'a pas le contrôle moteur. Mais c'est aux parents de donner des objets. Pourquoi des objets? Mais pour que l'enfant se distrait. Se distrait de quoi? de cette faim énorme. Et pourquoi je vous parle tout le temps de cette faim énorme? Parce qu'il fait partie du stade oral, de retenir tellement l'histoire du manque à l'intérieur que c'est de là que naît la tendance à être alcoolique, la tendance à se droguer, la tendance à la boulimie et la tendance à l'anorexie. Vous reconnaîtrez que ce sont 4 symptômes extrêmement graves et que les psychanalystes n'osent même plus attaquer. Ils donnent quelques conseils, mais l'ensemble du traitement est en général un traitement comportementaliste. C'est-à-dire, tu avances, on te tape, tu n'avances pas, on ne te tape pas, etc. On ne fait pas de raisonnement à des gens qui ont mis au milieu que le manque était fondamental et qu'il fallait le remplir. Il en est de même pour les kleptomanes, d'ailleurs. Les kleptomanes sont inguérissables. Pourquoi ? Il leur manque toujours quelque chose. Ils ne savent pas quoi. Mais ils tendent la main avant de savoir à quoi servira l'objet. Ils ont besoin de se compléter par quelque chose d'extérieur. Alors, nous leur apprenons à se compléter, nous les nourrissons, mais nous avons le devoir de leur apprendre à se compléter par ce qu'on appelle la sublimation. C'est un mot que les parents ne connaissent pas. Moi, je voudrais bien qu'on fasse dans les maternelles, oui, sûrement, des cours de formation permanente pour les parents, pour leur apprendre comment on passe de la nourriture à l'objet, de l'objet à l'objet qui fait de la musique, et de la musique au petit livre tout petit, où il y a des images toutes petites, où on dit coco, wawa, etc. Quelle progression on doit suivre dans la sublimation du bébé? Car le bébé, intéressé par ce qu'on lui fait voir, ne nous embête plus avec son histoire de « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, donne-moi à manger ». Non, il s'intéresse à d'autres choses. C'est comme nous, quand nous avons très faim, et que tout d'un coup, nous nouons une relation extrêmement intéressante avec quelqu'un et que nous oublions de manger. Tout d'un coup, mais quelle heure est-il? On s'aperçoit qu'il est une heure indue. On avait totalement oublié. On était dans le plaisir de la communication. On mangeait l'autre qui nous mangeait. On avait un échange de dévoration, tout à fait oral, puisqu'il était par la parole. Mais on a oublié la nourriture. On va manger quelque chose plus tardivement. Donc, retenez que la première année de l'enfance est la violence. Des vraies violences, c'est-à-dire des alcooliques, des drogués, des anorexiques et des boulimiques. Ces violences qui ne concernent que quelques parents et ces violences qui affolent les parents parce que, justement, ils n'en voient pas la cause, ils ne la connaissent pas la cause. Et quand on veut soigner la chose, il est trop tard. L'enfant n'entend pas, n'entend plus, ne se souvient pas. Et moi, je comprends très bien que quand on est parent d'anorexique ou de boulimique, on soit affolée. On dit j'ai tout fait de ce qu'il fallait et maintenant regardez, elle mange des tonnes de nourriture, elle se fait rendre, c'est une horreur, c'est une horreur. Et que faire? Et que faire? On ne peut pas condamner ses parents. Il y a des parents à qui on peut faire prendre compte qu'ils auraient mieux fait de faire comme ci ou comme ça, mais quand ce sont des perversions graves comme celles-là, elles sont natives, elles sont fondamentales et elles viennent de la violence à se remplir. Vous savez très bien que celui qui mange des tonnes de nourriture, il est dans une violence épouvantable. Les boulimiques l'ont décrite je ne sais pas combien de fois. Ils se sentent fous. Ils se sentent fous, hors d'eux-mêmes, occupés simplement à dire il faut que je sente que là c'est plein, 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 plein. Ils avalent des kilomètres qu'ils ne peuvent même pas garder d'ailleurs. Hein. Et c'est un besoin qui n'est pas finalement tellement physique que psychique. Alors voilà pour la première violence, puisque j'ai défini, moi, dans la formation de la violence, qu'il y a deux origines à la violence. Il y a donc l'origine orale, où vous avez manqué les besoins de l'enfant qui manquait de tout dans la première année, vous n'avez pas deviné ça, et il s'est arrangé pour mettre toujours quelque chose en plus, le pouce ou autre chose, et plus tard il mettra différentes choses que vous n'apprécierez pas. Ou bien vous avez réussi le stade oral, votre enfant va très bien, mais quand il arrive à 1 an, il commence à marcher, à vouloir attraper les choses, qu'il soit à 4 pattes ou debout, il voit les objets de son désir, il veut les prendre. Et à ce moment-là, il n'a aucune discrimination de ce qu'il peut prendre ou pas. Et c'est à vous de dire non, non pas ça, non pas ça. Et la plupart des parents, aujourd'hui, je me heurte de façon générale et globale à des parents qui ne veulent pas dire non à l'enfant. Il est impossible de faire dire à un jeune parent non, ça, non. Quand il voit l'enfant se mettre en colère, il l'écoute un moment et puis il lâche tout. Mais tu le veux, tiens. Et il le lui donne, alors qu'ils avaient dit qu'il ne le donnerait pas et que ce n'était pas son objet. Si votre enfant est près du feu, qu'il attrape, je ne sais pas, il a 12 mois, il attrape un petit balai en bois avec 4 poils au bout, ce n'est pas trop méchant encore, mais s'il attrape les pincettes et la pelle en fer, évidemment, qu'il faut dire non et l'enlever. Et puis avec une voix forte qui fait voir que vous ne voulez pas. À partir du moment où l'enfant marche et veut atteindre son désir, il faut voir qu'il y a deux désirs, le vôtre et le sien. Et c'est là que l'enfant apprend à respecter l'autre. Cette imbécilité que nos lycéens écrivent sur les murs des lycées, respectez-nous et on vous respectera, et tout à l'envers. C'était nous qui devions nous faire respecter, nous et notre désir, et nos enfants allaient l'apprendre si on l'avait fait sur la deuxième année. Mais si on le fait sur la sixième année, ils ne l'écouteront pas. Et ils ne respecteront pas nos interdictions. C'est au cours de la deuxième année qu'on voit un enfant faire des caprices épouvantables, se rouler par terre, taper dans les murs, nous donner des coups de pied dans les tibias, parce qu'on ne veut pas faire sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'il faut mollir pour autant, et qu'ayant supporté des cris atroces pendant un quart d'heure, il va falloir tout lâcher. Pas du tout. Il faut prendre l'enfant par la main, par le bras, par ici, par là, par où vous voudrez, et lui dire « Je vois que tu es très en colère. » L'enfant dit « Oui, tu es très en colère, je ne veux pas que tu prennes ça et tu ne le prendras pas. Maintenant, si tu veux continuer à faire ta colère, moi je t'emmène dans ta chambre et tu casses tout ce que tu veux. Dans ta chambre, c'est à toi, mais ici, c'est à moi. » Il faut commencer à dire « à toi, à moi », sans arrêt, « à toi, à moi ». L'enfant prend aussi bien le sac à main de sa mère, il le débarque, le poudrier, les sous, tout, les petits ciseaux, les papiers d'identité, tout. La mère arrive, tout est par terre. « Oh, dit-elle, tu m'as tout vu, je suis par terre quand même. Hein. » C'est tout ce qu'il aura, il n'y a aucune dispute pour dire « mais c'était à moi ». Il faut tout de suite manifester qu'on a un « moi ». Sans ça, l'enfant ne prendra jamais l'habitude de respecter les mesures du moi de l'autre. Tout ce qu'il a envie, c'est à lui. Pourquoi ? Parce qu'il est un enfant et parce qu'on lui passe tout. Alors, je vais vous dire pourquoi on lui passe tout. Il y a deux raisons extrêmement importantes. En 1968, on a eu une révolution, ce n'était pas pour rien. Ça a fini qu'on a été du côté de ce qui est cool et gentil, en imaginant que le monde entier pouvait être bon et gentil, tout le monde pouvait s'aimer, etc. Ce qui est une erreur, l'amour et la haine sont groupés, nous aimons certaines personnes, nous en détestons d'autres, pour des raisons très particulières. Et à ce moment-là, on a écrit cette phrase célèbre, « Il est interdit d'interdire ». À partir de là, les parents ont pensé qu'on pouvait faire marcher les enfants sans interdit. En plus, il y avait derrière Françoise Dolto, très grande psychanalyste, qui avait découvert énormément de choses à propos du langage avec les enfants, et qui disait « Vos enfants ne sont pas des bêtes », en ce sens, elle avait tout à fait raison, « ce sont des êtres humains, ils vous comprennent, vous expliquez pourquoi il ne faut pas prendre la pelle, et vous verrez, il ne la prendra pas. » Eh bien, moi, j'ai vu une fois une jeune femme qui m'a dit « Madame, je suis devant vous, vous êtes analyste, moi, j'ai été élevée à la Françoise Dolto. » J'ai dit « Ça veut dire ?» Ça veut dire qu'on m'a expliqué pendant des heures ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'ai dit résultat. Ça veut dire que je suis coupable avant de toucher toute chose et que ma culpabilité est tellement grande que maintenant je suis obligée de venir faire une psychanalyse pour guérir de ma culpabilité. Alors je me suis dit, quand on est psychanalyste, il faut faire attention à toute chose parce que dire qu'un enfant comprend, c'est vrai, mais dire qu'il a la raison pour se garer parce qu'il a compris, non. Il a la volonté de dire « moi ». Il est en train, comme Madame en a parlé tout à l'heure, de vouloir s'ascensionner dans son « moi » et exister à part de nous. Donc il lutte avec une violence énorme contre son parent pour dire « tu ne veux pas, bon, je vais passer par derrière, je vais l'attraper quand même ». Il fait n'importe quoi pour arriver à nous dominer. Et nous devons être sûrs que c'est nous qui avons la domination. Il n'est pas question de voir des parents qui disent « je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, il me rend folle ». Non, il n'en est pas question. Vous prenez l'enfant, vous le mettez où ça vous fait du bien de le mettre pour redevenir calme. Et l'enfant se dira que chaque fois qu'il fait ça, vous le mettez dans la pièce noire à côté ou vous le mettez dans le couloir tout seul ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais vous faites quelque chose qui signale qu'il est allé trop loin et que vous n'avez pas l'intention de vous laisser dévorer. Cette bagarre de l'âge anal est rendue très difficile, donc par 68, et rendue très difficile par l'état actuel des mères. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons beaucoup bagarré avec le féminisme, et moi une des premières. pour avoir le droit de travailler, de nous développer, de faire des études, d'avoir des postes intéressants, d'avoir une vie intéressante, ce qui ne voulait pas dire pour nous couper à toute reproduction. On voulait toujours aimer faire des enfants, mais à la suite de quoi on voulait retrouver son poste, directrice de je ne sais pas quoi, de gérante d'autres choses, etc. C'était tout à fait normal. Mais on n'a pas fait attention qu'en disant cette chose-là, on ne s'est pas rendu compte que les mères, on n'avait pas pris les décisions qui convenaient avec les hommes pour que les femmes ne restent pas entièrement chargées des bébés. Et les femmes sont restées chargées des bébés jusqu'à il y a environ 1 ou 2 ans, jusqu'à ce qu'une psychanalyste comme moi fasse un petit livre rouge qui est là sur la table, où je dise au père, mais monsieur, vous n'êtes pas utile parce que vous êtes costaud, vous n'êtes pas utile parce que vous êtes grand, vous n'êtes pas utile parce que vous êtes beau, vous êtes utile parce que vous êtes un homme, que vous avez une odeur d'homme, une voix d'homme, et que quand vous tenez votre bébé sait très bien que ce n'est pas sa maman. Et vous êtes utile parce qu'il faut 2 parents. Et il faut 2 parents parce que vous êtes en train d'hurler qu'à chaque divorce, on vous enlève le bébé en disant qu'il n'est pas à vous puisque vous ne vous en occupez pas. Je dis, si vous voulez garder vos bébés au moment du divorce, prouvez à la société entière, prouvez aux juristes qui sont là pour en décider que votre enfant connaît aussi bien son papa que sa maman et que lui ne choisira jamais maman. C'est en général le contraire qui arrive. Si vous questionnez un enfant, il a 5, 6 ou 7 ans, et on lui dit, tes parents vont se séparer, où veux-tu rester? On lui demande ça dans l'intimité, de préférence, pas le juriste. Il répond, moi je veux rester avec maman. Pourquoi il veut rester avec maman? Parce qu'il connaît maman depuis toujours. Il connaît le corps de maman, la bouche de maman, la peau de maman, l'odeur de maman, depuis tellement de temps qu'il paraîtrait criminel de le mettre chez un père qu'il connaît à peine. C'est pour ça qu'il était nécessaire d'écrire des bouquins psychanalytiques à propos du père. Je pense que les pères ne se doutaient pas qu'ils avaient une odeur charmante pour le bébé, des bras vigoureux, une parole différente, ils sont plus moteurs. Ils faisaient sauter le bébé, c'est-à-dire que le bébé aimait bien ça, maman ne le faisait pas, mais l'autre le faisait. Et la mère et le père faisaient l'un et l'autre, sans qu'on sache que ça soit un homme ou une femme, car le bébé ne distingue pas ça. Il ne dit ni papa ni maman, il y en a qui disent pas maman. Et ce qu'il y a de curieux, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans cette affaire, c'est que les pères ne veulent souvent pas s'occuper des bébés ayant peur d'être assimilés aux mères. Ils disent, mon enfant va me prendre pour une mère. Mais tiens, enfin, monsieur, vous n'êtes pas sûr d'avoir un corps d'homme, une odeur d'homme, des appendices d'homme, une voix d'homme, des sourcils d'homme, des oreilles d'homme. Ben, si je fais la même chose que ma femme, mon bébé, il va se tromper. Mais non, il ne va pas se tromper d'odeur. Je vous jure que même aveugle, votre bébé vous reconnaîtrait. Alors les hommes, longuement expliqués, comme ils sont logiques, finissent par dire, je vais essayer. Et quand ils le font, ils découvrent qu'ils ont une grande jouissance et qu'il se passe un mariage très intime entre l'enfant et eux. Ils découvrent une grande intimité, quelque chose de tout à fait unique, qui leur permet de croire que quand l'enfant sera adolescent ou plus grand, il pourra leur parler de choses affectives. Or, jusqu'il y a 5 ans, quand un jeune homme avait quelque chose, le sida, mettons, ou l'homosexualité, des choses qui touchent beaucoup les gens, il allait d'abord le dire à maman, jamais à papa. Pourquoi? Parce qu'on a d'intimité qu'avec les gens qu'on a touchés avec le corps, c'est fondamental. La première intimité avec un bébé s'obtient toujours avec le corps, pas seulement avec la voix, comme le disait Dolto, comme l'ont dit les précédents analystes, qui traitaient le papa de premier étranger. Le premier étranger, moi je n'en veux pas. Il existe un homme, c'est un père, l'enfant connaît son odeur et sa voix, c'est un repère. Encore plus solide. Bon. Il n'est donc pas question de le laisser en route, même s'il y a un divorce. Il est question de lui trouver une place de parent correcte. Donc je suis en train de vous parler de plusieurs domaines à la fois, car au moment du divorce se développe quoi? Une violence épouvantable. Chez qui? Chez le père et chez la mère. Tous les deux redeviennent violents, ce qui veut dire qu'ils ont pu l'être quand ils étaient petits, l'ont oublié, et au moment du divorce, où on dit à chacun, on t'enlève un morceau de toi, alors là, ils deviennent fous, ils retrouvent la violence du bébé qui voulait se défendre de la mort. Les pères et les mères veulent se défendre de la mort de leur suite, car ils avaient une suite et on la leur enlève. Moi, j'ai vu des pères divorcés me dire, moi, on m'a enlevé mon enfant, je ne l'ai pas vu depuis qu'il avait 3 mois. Madame, c'est comme si on m'avait enlevé une jambe. Je suis un homme qui ne marche pas comme les autres. Ou bien d'autres qui me disent, madame, je ne peux pas aller dans un square et voir des petits enfants qui jouent au sable. au bout d'un moment, je ne peux plus. Je pense que j'ai un enfant, qu'il est à moi et que je l'ai perdu. Et c'est horrible pour moi. Et quand on entend les hommes dire des choses telles, on se rend compte qu'ils ont une âme paternelle. Il n'y a pas que l'instinct féminin, il n'y a pas que l'instinct maternel. L'instinct, c'est le parent, l'homme ou la femme, qui, avec son enfant, se dit « si un des deux devait mourir, ça serait moi, ça ne serait pas lui ». Pourquoi ça ne serait pas lui? Parce que lui est tout neuf, il est tout jeune, il a toute la vie devant. Et le père a au moins déjà 25 ans. Il n'a peut-être pas fait grand-chose en 25 ans, vous me direz. Mais l'autre a encore plus de chance parce qu'il est plus jeune. C'est tout à fait naturel quand vous entendez un parent dire « Oh là là, avec tout ce qu'elle me fait » et dire que j'aurais donné ma vie pour elle. Ne trouvez pas ça merveilleux du tout, c'est tout à fait naturel. Chacun de nous, s'il est parent, veut donner sa vie pour son enfant. Et c'est comme ça que nos enfants, quelquefois, sont protégés par nous-mêmes, car nous prenons quelquefois tous les risques. Et c'est bien ainsi. Je veux revenir à cette culpabilité des femmes qui gêne tellement les mères pour donner des punitions, des corrections, gronder l'enfant, lui dire non. Elles ne veulent, comme elles passent peu de temps, elles arrivent à 6 heures du soir, elles vont chercher l'enfant très très vite à la crèche, elles sont affolées, elles prennent l'enfant, elles l'embrassent. Déjà l'enfant se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais maman ne fait ça. Il dit qu'il y a une histoire d'angoisse quelque part. Et quand elle ramène l'enfant à la maison, c'est tout juste. Si elle fait la cuisine, elle joue avec lui, elle s'amuse avec lui, et tout ce qu'il demande, il aura un bonbon, deux bonbons, quatre chocolats, une madeleine, etc. Quand on arrive au repas, on n'a plus faim. Eh bien, au repas, on fait des caprices, on dit qu'on n'en veut pas, et puis ça ne fait rien, puis il ira au lit comme ça. Le tout, c'est qu'on l'aime. Moi, je voudrais qu'on enlève de la tête des jeunes parents qu'un enfant très aimé dans le jeune, très jeune âge fera un adulte heureux. Je le mets en doute parce que je pense que cet enfant-là devient progressivement un ogre qui prend l'habitude de manger tout ce qui l'entoure. Il est persuadé que le monde entier lui appartient et que s'il n'a pas les choses, il n'a qu'à taper, il n'a qu'à cogner, il n'a qu'à hurler. Et il aura les choses. Donc ça fait des enfants extrêmement difficiles et violents. Déjà, si à la fin de la deuxième année, les parents n'ont pas obtenu une relative obéissance, il faut qu'ils deviennent plus sévères. Il faut qu'à la fin des 3 ans, l'enfant se range quand les parents le disent. Si le parent est sur le trottoir et que le feu est en train de passer au vert, c'est le parent qui dit « viens ici », l'enfant doit venir. Et s'il ne vient pas, eh bien, il aura une tape. Il aura une tape sur le bras, sur la main, où vous voulez. Mais vous défendrez le corps de l'enfant car c'est le vôtre que vous défendez. Et les parents sont en train de se dire « la seule chose que je puisse faire pour mon bébé, je lui ai tellement manqué toute la journée ». C'est de l'aimer, de lui sourire et de le voir content. Alors, pour voir quelqu'un content, ben on lui fait tout, on lui donne tout. Et moi, je vois de plus en plus d'enfants jeunes et violents. Et je vois la société entière se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des parents coupables qui sont trop gentils au retour du travail. Et comment peut-on arrêter cette chose-là? Déjà en la sachant. Si les mères savaient, quand je suis trop gentille avec mon bébé, c'est moi que je calme. Le bébé, lui, n'a pas besoin de ça. Il sait que je l'aime. Il a reconnu mon odeur, les murs de la maison, ses joujoux, etc. Il est tranquille. Je l'asseye là et je commence à trier mes légumes pour la cuisine. Les mamans iraient déjà mieux. Il faut leur dire, mais votre bébé n'est pas aussi angoissé que vous toute la journée. Hein. Il plafonne toute la journée comme ça, il a la tétine dans la bouche. Il est peut-être un peu vide. Moi, j'ai des principes sur la crèche. Je pense que 3 mois en crèche, les mettre à 3 mois, c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'il faudra 2 nouvelles lois, mais beaucoup de psychanalyse derrière pour dire comment un enfant en crèche à 9 mois. Quand il a son identité, qui dit, il reconnaît le papa, la maman, et qui pleure quand il les quitte, ce qui n'a pas l'air très gentil, mais ce qui veut dire, je vous reconnais, je pleure de vous perdre. Alors qu'à 3 mois, il ne pleure pas, il s'en fout, il ne reconnaît personne. Alors vous le mettez dans un truc où il ne reconnaît personne, il y a 30 enfants qui ne reconnaissent personne, tout le monde crie, pleure, c'est une vraie salade pendant des heures, des heures, des heures. Et quand la mère revient, ce bébé est dans un état d'inattention terrible. Et qu'est-ce qu'on nous dit en classe? Que nos enfants sont inattentifs. On n'a pas fait attention qu'à la crèche, ils sont devenus inattentifs. Ils sont devenus des bébés avec une tétine, comme ça, là, sur leur petit carré tout, là, puis ils attendent qu'on vienne les chercher, c'est tout. Ils se ressuscitent quand ils voient le père ou la mère, quelqu'un qu'ils connaissent, ou la nounou, ça dépend. Donc il y a déjà une erreur, mais là, elle est plutôt venant des pouvoirs. Et quand on aura compris les histoires, comment naît un bébé, comment naît sa violence, peut-être on s'attaquera au pouvoir et à ce moment-là, peut-être les parents descendront dans la rue pour demander ce dont les bébés ont besoin. C'est d'être mis dans une crèche seulement à 9 mois et d'être mis en maternelle comme ils le sont, 2 ans et demi, 3 ans, c'est excellent, ça va très bien. Mais à 2 ans et demi, 3 ans, quand l'enfant va en crèche, les parents ont dû obtenir tout seuls
l'obéissance, le bonjour madame et je suis propre. Et c'est des choses que très souvent les parents n'obtiennent pas. Parce qu'à force de reculer et de forcer l'enfant pour aller sur le pot, il dit « Oh non, j'en ai marre, ça va être une guerre que notre vie, moi je ne veux pas une guerre. Moi c'est pas possible, j'ai pas fait des enfants pour faire la guerre avec eux, je ne veux pas. » Et les parents laissent tomber, l'enfant n'est pas propre. Et il s'en fiche. Et il pense qu'il s'en fiche parce qu'il est petit, etc. Donc l'autorité, la deuxième année, c'est une chose difficile, mais que les parents doivent appliquer quand même. Ce n'est pas parce que votre enfant va donner 3 coups de pied et va vous dire « Je t'aime plus !» qu'il faut se désespérer l'âme. Mais dans 3 minutes, il va vous dire « Je t'aime !» Et le soir, au moment d'aller au lit, vous allez lui raconter une histoire avec un enfant qui fait beaucoup de bêtises, on le corrige parce qu'il n'est pas sage, et à la fin, tout le monde l'embrasse parce qu'il est enfant de la famille et que tout le monde est très content qu'il soit là, etc. Et vous refaites l'histoire à l'envers et vous la concluez beaucoup mieux. Et votre enfant s'endormira tranquille en disant « Mais ça peut arriver, qu'on se dispute dans la journée, et puis que le soir, on s'aime et qu'on s'embrasse. » C'est le principe même de tout amour, même l'amour du couple est basé là-dessus. Si on n'ose pas s'engueuler dans un couple, on n'ira pas très loin. Si on ne sait pas que « je t'aime et tu m'horripiles » marche ensemble, parce que « tu m'horripiles », c'est quand tu ne m'aimes plus assez, ce qui veut dire qu'on a une demande sérieuse, eh ben le couple n'ira pas loin. Il faut se donner la permission de s'attraper dans un couple et il faut se donner la permission d'être autoritaire avec nos enfants. Maintenant, de là, à battre les enfants, comme on le faisait autrefois, avec des tiges, avec du fer, avec de... Non, sûrement pas, sûrement pas. On est devenu beaucoup plus humain maintenant. On attrape un enfant par le bras, on le met dans une chambre où on veut, dans un couloir, etc. On peut, s'il est plus grand, à 3 ans, le priver de télévision, car déjà, il regarde des petites séries d'animaux qu'ils aiment beaucoup. On peut dire, puisque tu as fait ça, tu ne regarderas pas la télé. Et il ne faut pas moulir. Au dernier moment, il ne faut pas dire, oh, écoute, il a été gentil tout à l'heure, il a mis ses chaussures sous le lit. Pas de pitié à cet endroit-là. Ce n'est pas possible. Et dans la troisième année, vous ne ferez que confirmer la deuxième année, c'est-à-dire vous arriverez à « bonjour madame ». Et s'il ne dit pas « bonjour madame », vous le punirez car votre enfant est en train de devenir asocial. On dit maintenant que les enfants rentrent dans les magasins, ils disent « bonjour, ni bonsoir, ni rien », ils mettent la main tout de suite dans le truc à bonbons, ils regardent partout s'il n'y a pas une banane qui traîne, enfin, c'est effroyable. Mais c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui les avons plaints de dire « bonjour madame ». Mais nous, on ne nous plaignait pas. Nous, on disait « bonjour madame », très très jeune. Hein. Ça ne nous a fait aucun mal. Il faut voir que la violence, les parents n'en ont peut-être pas compris le chemin et que le plus grand duel, le plus sauvage, se passe entre parents et enfants au cours de la deuxième année et qu'à la fin de l'année, l'enfant dit son nom. Il dit « Eric peut pas »,« Eric veut pas ». Et la troisième année, dès le début de la troisième année, il dit « je ». Il dit « je », il dit « maman », il dit « papa ». Ça y est, le conflit est presque à la fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter encore jusqu'à la fin de la troisième année. Mais si on a passé tout ça en ne faisant que des fautes, c'est-à-dire en disant tout le temps, ah ben, oh là là, il m'embête tellement, moi je suis fatiguée et toute ma journée de travail, si encore il faut se taper ce caprice, non, c'est pas possible. Hein, bon. Alors la mère, quand elle lui donne ce qu'il veut, eh ben, le voilà ton truc, etc. L'enfant la regarde d'un air triomphant. Hein. Les enfants remettent 2 ou 3 fois hein, leur demande. Et vous, vous devez remettre 2 ou 3 fois la punition quand vous pensez que vous allez donner une punition sévère. Vous dites, si tu prends ça, je te donnerai une claque. L'enfant recule, puis il recommence. La seconde fois, vous répétez, tu sais ce que je t'ai promis. La troisième fois, vous dites, c'est la troisième fois, boum. L'enfant criera quand même, mais ne pleurez pas. C'est pour vous faire voir que vous êtes méchante. Mais vous êtes méchante dans l'instant car vous songez à l'avenir de votre enfant et vous ne voulez pas en faire un violent que tout le monde rejettera. C'est très important de savoir ces données-là, dans un âge aussi tendre. Et on ne peut le savoir que quand on est psychanalyste et qu'on sait que tout ce qui est en dessous de 3 ans reste dans une couche comme ça, qui ne ressort jamais, même en analyse. Les gens ne nous parlent jamais de l'âge de 2 ans, ils n'en ont pas le souvenir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les aider. Nous ne pouvons soigner que des névroses qui datent de l'âge de 3 ans. Jalousie, par exemple, refus de classe, des choses comme ça. Nous pouvons, parce que les gens ont des souvenirs. Mais en dessous, nous ne pouvons rien. C'est pour ça qu'il était très important que ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous le divulguiez, vous fassiez des réunions autour, que vous vous en serviez. Car tant qu'on ne saura pas ça, on ne redressera pas la violence. Et ce n'est pas avec des flics partout qu'on arrivera. Vous sentez très bien que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de défense, n'ont pas le respect de l'autre, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est de prendre quelque chose à quelqu'un, de le tuer éventuellement. Nous ne nous battons même pas pour une télévision qui de 2h, 14h à 18h ne fait voir quatre films sur quatre chaînes où il n'y a que de la violence, nous ne disons rien alors que nous savons que nous avons des enfants qui sont malades, ne sont pas allés à l'école ou qui vont chez le dentiste tout à l'heure, donc ils attendent, etc. Et ils voient ces choses-là, ils sont nourris avec leurs yeux de spectacles absolument cruels et sur le plan de la famille, nous leur passons tout. Alors, où voulez-vous qu'ils aillent ? Ils vont, vous les voyez aller, ils deviennent de plus en plus violents. On nous dit maintenant qu'il y a des enfants violents à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Et là, alors, on m'appelle, moi, et on me dit qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai dit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Évidemment, vous pouvez lui faire une garde à vue, il s'en fiche, il sait que le lendemain, il ressortira, il vous dira qu'il s'est bien amusé, c'était drôle, il a vu les prisons, machin, truc. Et ça ne lui fera rien du tout. Il faut que vous soyez conscient comment dans une société, la violence arrive et pourquoi les Américains sont les premiers en violence. Parce qu'ils ont été les premiers à gâter les enfants outrageusement. C'est évident, ça. Voilà. Alors, pour conclure, sur un sourire, je vais vous donner un souvenir de quand mes enfants étaient petits. Une fois, une de mes filles avait mérité une claque. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait fait qui était important. Je la poursuivais dans l'appartement pour lui donner une claque. Elle courait plus vite que moi. Et elle est passée à travers une vitre. Elle s'est ouverte la fémorale. Donc, j'ai de sang comme ça. Quand j'ai vu ça vite, j'ai mis un garrot. Mon mari étant médecin, je l'ai appelé à son bureau, il est arrivé tout de suite, il a mis des points, il a arrangé le truc. Quand elle a été bien ficelée, etc., je m'approche d'elle et craque, une claque. Elle est restée comme ça, elle s'en est souvenue toute sa vie. Elle m'a dit, maman, tu te souviens que tu m'as d'abord soignée et après grondée. C'est tout à fait dans cet ordre que va la vie d'un enfant. La première année, nous le soignons de son vide. Et la deuxième année, nous le grondons de ce qu'il veut prendre notre pouvoir. Il a droit au sien, il y a des pouvoirs que vous lui laisserez. Vous lui direz, tu peux casser ton camion, il est à toi. Il faut faire des gestes comme ça. Tu peux casser ta chaise, il est à toi, mais pas la mienne. Il faut tout le temps faire la différence. Voilà, je pense que j'ai été assez longue déjà.
Vous avez été parfaite. Il nous reste quelques minutes si des questions sont à poser.
Oui, pardon. Comme vous aviez dit que vous vouliez rester sur une note optimiste, il y a quand même quelque chose, moi, en tant que parent et en tant qu'enfant, dans les deux cas, sur cette histoire de l'inaccessible après. Sur ce qui s'est passé sur ces trois premières années de vie, c'est vrai que ça, je vais avoir du mal à repartir avec. Donc, avec toute votre expérience, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous paraît. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas atteindre et qu'effectivement l'adulte porte comme à jamais par rapport à ces trois années.
Si on ne les fait pas à l'âge voulu, elles ne sont pas intégrées. Moi, j'ai un fils que j'ai remis à mon mari quand il a eu 8 ans, ou à peu près, puisque mon mari ne s'occupait pas des enfants, puisqu'il était médecin, qu'il était hors de ça, et qu'on n'avait pas commencé à prendre le parti des pères. Donc il ne s'occupait pas. Moi, j'étais la femme du toubib, je m'occupais des trois enfants. Et le dernier était un fils. Quand il a eu 8 ans, j'ai dit à mon mari, veux-tu t'occuper de son éducation sexuelle? Veux-tu lui expliquer qu'est-ce que c'est d'avoir une érection? Veux-tu lui expliquer tout ce que je ne connais pas? Et mon mari m'a dit, oh, ça me barbe, je ne suis pas habituée, moi, tout ça, etc. Il n'a pas voulu faire la chose. Et moi, j'ai compris que cet enfant aurait un problème. Suite de l'histoire, à 13 ans, dans la maison que j'ai à Aix et qui est très ouverte, j'ai vu un jour mon fils qui montait la garde. Il montait la garde où ? Il y avait une chambre d'étudiants derrière où ses petits copains étaient en train d'aller jouer sexuellement à je ne sais pas quoi. Et lui, il faisait la garde au cas où maman arriverait. Maman est arrivée, elle dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On joue à quoi ici ? Je suis allée à la chambre des étudiants. J'ai viré tout le monde. Les filles sont parties, les godasses à la main, les garçons en rasant les murs. Quand j'étais seule avec mon fils, je lui ai dit, maintenant Jérôme, c'est inadmissible. Il était grand, il faisait 1m70. J'ai dû lever la main très haut, car je ne suis pas très grande. J'ai dit, quand, pan. Et vous savez ce qu'il a dit ? Continue, je le mérite. Je me suis dit, mon Dieu, que de claques perdues. Et c'est un enfant que je n'avais presque jamais touché, car il était extrêmement intelligent, extrêmement sage. Il contournait toujours les difficultés, on ne le prenait jamais la main dans le sac. Donc on ne pouvait jamais le gronder. Donc je ne l'avais pratiquement jamais grondé. Vous voyez, comme des petites choses comme ça, ça devient une énorme chose. Et cette fille, en tout cas, que j'ai grondée et punie après, elle m'a dit, moi je trouve qu'on a été éduquée très correctement, moi je ferais pareil. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas gardé mauvais souvenirs, elle s'en est souvenue toute sa vie.
Oui, bonjour. Lors de votre intervention, à un moment donné, vous avez décrit des scènes de maman et, ou de papa qui vont chercher les enfants à la crèche et donc la difficulté avec le travail conjugué avec la vie de famille quand on rentre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ce qui est à remettre en question, c'est l'organisation du travail tel qu'il est planifié aujourd'hui dans la société et est-ce que ce n'est pas un frein ou tout du moins ce n'est pas un terrain propice à pouvoir justement avoir des parents disponibles à la fin du travail pour pouvoir correctement affronter les difficultés qu'on doit rencontrer avec un enfant.
Je suis tout à fait de votre avis étant donné que je pense que de faire des êtres humains c'est très lourd de conséquences alors que d'assembler des pièces d'avion ou d'assembler autre chose dans une entreprise ça rapporte de l'argent, c'est ok mais c'est beaucoup moins personnel et ça va durer beaucoup moins longtemps pour vous-même et je pense que de faire des enfants c'est une entreprise lourde, longue qui demande de la part de l'État un engagement, sinon la natalité baisse si on n'aide pas les parents ou bien alors on a des enfants qui deviennent violents comme maintenant, il faut que la société entière, et l'État en particulier, respecte la reproduction des citoyens du pays. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Je m'étonne que jamais on évoque ce problème, en disant quelles sont les conditions pour faire des enfants qui vont bien. Faut-il des nourrices? Faut-il d'autres crèches? Faut-il que les papas restent 6 mois, les mamans 6 mois? Enfin, qu'on demande qu'est-ce qu'il faut pour des êtres humains. Et on ne le demande jamais. Et ça tombe du haut que ça arrangerait l'État qu'on fasse des crèches avec beaucoup de place parce que ça ferait moins de bâtis, ça serait moins cher, etc. Ça vient toujours d'en haut, ça nous coûtera moins cher. Mais moi, je trouve que pour avoir de la violence, il n'y a pas de prix pour ne pas en avoir, je dirais. Je suis tout à fait de votre avis. Il y a un remaniement à faire en fonction de l'enfance. Alors, il y a 3 jours, il y a eu les droits de l'enfant. Alors, les droits de l'enfant, qu'est-ce que c'est ? De ne pas se faire violer et utiliser. Mais voilà une chose que les parents, je vais le rajouter partout aujourd'hui parce que je ne vous reverrai peut-être jamais, le seul moyen d'éviter que nos enfants soient violés et qu'on s'en serve, c'est de leur apprendre la sexualité à l'âge de 2 et 3 ans également. Leur dire ce truc, il est à toi. Personne n'a le droit de le chipoter. Moi, je le soigne et je m'en occupe parce que tu es mon enfant. Le docteur le regarde quand tu es malade. Mais si quelqu'un s'en occupe, alors là, tu lui dis « Ah non, tu es mal poli, papa et maman ne veulent pas. Hein. » Et toi, alors, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que c'est la permission de la masturbation personnelle qu'on retrouve très souvent dans la vie à plusieurs âges. Dès que la personne est seule, elle se masturbe. C'est tout à fait normal, nous le savons tous. Mais il faut donner la permission aux jeunes enfants de faire ça pour qu'ils prennent l'habitude de « c'est à moi ». Ça n'est jamais à l'autre. Il n'y a que cette défense qui est solide. On ne peut pas proposer à des tout jeunes enfants de dire « ce monsieur est un pervers, celui-là ne l'est pas ». Ils ne peuvent pas, ils sont trop petits. Ça n'est pas possible. Il faut qu'ils soient opposés d'emblée à toute manutention autour de cette affaire. Mais ça, c'est les parents qui doivent être enseignés et le savoir.
Merci, madame.